c'est normal.
Ça fait des caprices. Voilà. Ok. Hey.
Ok.
Bienvenue sur Read the Room.
Read the Room.
J'espère que vous allez bien.
Yes, moi aussi j'espère que vous allez bien.
Oui. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas toutes seules aujourd'hui. Et on a nos chers amis ici qui vont se présenter et avec qui on va avoir une discussion super intéressante.
Ouais.
Et donc voilà.
Donc ici à ma gauche, on a présenté.
Ah, bon, moi c'est Viti. Il y en a qui m'appellent Mao. Je dois dire quoi sur moi en fait ?
Ouais, en 9 secondes. Tu 9 dis secondes, tout ce que tu bon. Veux.
Vichy, Mao, prédicateur. Non, en vrai de vrai, j'aime beaucoup l'art. J'aime rire, j'aime discuter, j'aime les débats. Et voilà.
Ok, super. 8 secondes. Enfin, j'ai compté. Bon, voilà. Ici à ma droite, j'ai.
Céline, moi je suis passionnée de la vie, wow. Passionnée des gens, j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup l'art aussi, comme Vichy. J'aime beaucoup rire également. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est dur de se présenter, hein, mais je pense que j'ai dit l'essentiel.
Donc on va commencer avec un icebreaker,
mm-hmm.
Un petit jeu.
Bah, juste avant ça, juste dire comment on s'est connus.
Ouais, voilà. On explique ?
Oui.
Ok, donc Vichy, c'est le voisin, quoi.
C'est à ça que je suis résumé, quoi.
C'est pas ce que j'ai trouvé. C'est le voisin, ami
d'enfance.
D'enfance, ouais.
D'enfance, oui.
On était dans la même école aussi.
Oui,
ah,
voilà,
oui, c'est vrai.
On se voyait tous les jours.
Ouais. Et voilà. Quoi.
Voilà, ouais. Et du coup, moi, je la connais par. Je le connais, pardon. Et par Jessica et par d'autres personnes que vous verrez dans un autre épisode.
Mmh.
Et donc voilà. Et à ma droite, ben, Céline. Elle, on a étudié ensemble pendant 2 ans fac. Et on a eu des moments vraiment chouettes. Genre, je me souviens du temps où on se retrouvait dans la chambre d'une de nos amies et qu'on planifiait pour être les femmes du proverbe 31.
Ouais.
Donc voilà. Un peu ça. Franchement, des beaux souvenirs. Et aujourd'hui, c'est vraiment un honneur de la recevoir ici dans ce projet. C'est trop bien.
C'est moi qui suis honorée. Merci.
Donc voilà.
Donc on va introduire directement le sujet, quoi. Aujourd'hui, on va parler des choses sérieuses.
Ouais.
Premier sujet, c'est le choc générationnel. Et donc ouais, voilà. Comme je peux voir, on a tous, je suis sûre qu'on a tous des parents qui viennent de l'étranger. Et on a tous grandi ici en Europe. Oui. La question que j'ai à poser, c'est est-ce que vous n'avez pas un memory ?
Un souvenir.
Un souvenir qui vous revient à l'esprit d'un moment quand vous étiez plus jeune où il y a eu un clash entre. Un parent et toi.
Un clash entre
ouais,
un parent
ouais,
et nos parents ou...
Oui.
Ouais, au niveau de la conception des choses, genre par exemple, eux, dans la manière d'éduquer, ils voient les choses d'une telle manière, mais toi, comme t'as grandi ici en Europe, hein, tu vois peut-être les choses différemment.
Oui, ça se passe tous les jours, je pense jusqu'aujourd'hui. Hein.
Ouais, des chocs comme ça.
Encore il y a quelques... Bon, après, si c'est vraiment des chocs, je sais pas si je peux appeler ça un choc, mais encore il y a quelques jours, mon père, quand il m'a vu avec les nattes sur la tête, c'était... C'est quoi ça ? Je dis, ben, c'est des nattes. Oui, mais ça, c'est pour les femmes. C'est les femmes qui mettent des... Comme on dit chez nous, sukamaboko, genre, les cheveux faits avec les mains et tout. Alors qu'ici, tu sors dehors, tout le monde en a, tu vois.
Mmh.
Et ça, je sais pas si c'est considéré comme un choc ou pas.
Ça c'est plus la manière de voir les choses quoi qui est différent parce que eux ils ont grandi avec une certaine mentalité que les nattes c'est pour les femmes et quand ils voient un garçon porter ça ben c'est pas normal à leurs yeux.
Ok mais du coup à quel niveau on pourrait situer un choc? Par quel moment quelque chose est un choc ?
Moi, allez, dans mon cas à moi, moi, ce à quoi je pense, c'est directement... Bah, déjà, quand on entend choc générationnel, on sait que c'est une génération qui s'oppose à une autre. Et donc, une génération plus vieille qui se posent à une génération plus jeune. Et moi, je suis une personne qui, comme je le disais au départ, je suis passionnée des gens et j'aime être avec les gens. Mmh. Et du coup, je peux avoir des périodes où je sors énormément. Et dernièrement, mon père, il me faisait la remarque, il me dit « Ouais, mais toi, t'es tout le temps dehors. » Et je lui disais « Mais je vais pas attendre d'être mariée et d'avoir 35 ans pour commencer à sortir, tu vois. » Et je pense qu'à leur niveau, ils ont une conception de « Ok, tu fais ce que t'as à faire, tu vas à l'école. Après, tu rentres à la maison et tu restes avec tes frères et sœurs ou avec eux pour discuter, etc. » Donc je pense que c'est l'exemple que je donnerais à mon niveau.
Mmh. Mmh. Ouais. Au niveau du choc, ouais.
Et vous?
Mais moi aussi, c'était un truc du genre... c'est aussi... Enfin, je sais pas, toi tu te vois plutôt très libre et eux, c'est un peu en mode ni non, tu dois d'abord rester à la maison, tu dois faire... Enfin, c'est très...
Ouais. Mais ouais. Moi, l'exemple qui me vient... qui me vient en tête, c'est il y avait un moment, je me rappelle pas exactement ce qui s'est passé, mais c'était avec mon père. J'essayais de l'expliquer une chose, mais lui il comprenait pas ce que j'essayais de dire, donc ça faisait comme si j'étais en train de, bon, que j'étais impoli quoi, tu vois. Et en fait la manière dont je disais la chose à mon père, c'était logique pour moi. Mais pour lui, il comprenait ça d'une autre manière et s'est vu en tant qu'impoli. Et Tryphène a été là et elle m'a fait la remarque après. Ouais. Elle m'a dit, ouais, en fait, il y a une chose que tu dois comprendre, c'est la manière dont que toi, tu essayes de faire comprendre la chose à notre père. C'est pas la manière qu'il va comprendre parce qu'on n'a pas la même perception des choses. Donc, ça m'a fait cogiter. Et je me suis dit, c'est vrai que parfois, il faut s'adapter à la manière dont nos parents pensent, parce que c'est pas la même chose, même si c'est difficile. Parce qu'on va pas se mentir que nous, on a grandi avec la mentalité européenne, et eux, ils ont plus grandi avec la mentalité africaine. Et ces deux mondes qui clashent, donc des choses qu'eux, ils voient comme mauvais, nous, on voit comme... C'est normal,
c'est normal, tu vois. Ouais.
Et donc, ça peut créer un conflit, surtout si tu comprends pas. Si Tryphène, elle me l'aurait jamais dit, je pense que jusqu'à présent, j'aurais toujours eu des discussions avec mon père, tu vois. Mais quand j'ai compris que je dois vraiment essayer de voir les choses de sa manière aussi, comme ça, on peut plus se comprendre au lieu d'être en conflit, et ça a changé ma manière de parler. Donc, voilà.
Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que en fait je pense que peu importe l'interlocuteur, il faut toujours s'adapter par rapport à la personne qui est en face, surtout si tu veux te faire comprendre. Comme quand tu parles à un enfant, tu vas pas lui parler de haut parce que directement il va se sentir oppressé. Tu vas vraiment te mettre à son niveau et lui parler avec un langage qu'il peut comprendre. Et je pense que c'est la même chose avec nos parents, les personnes qui sont plus âgées que nous. Moi je suis persuadée qu'on peut plus les changer parce qu'ils sont passés par ce par quoi ils sont passés.
Ils sont déjà comme ils sont.
Voilà, ils ont leur éducation qui est ancrée en eux. Et donc je pense, allez, tout le monde peut évoluer, mais des changements vraiment significatifs, c'est compliqué, tu vois. Et donc, ouais, il faut vraiment essayer de trouver le moyen de leur exprimer les choses sans les confronter, sans les vraiment être de front avec eux, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment important de vraiment adapter son langage pour que les choses puissent être passées plus facilement, tout simplement, ouais.
Et pour pouvoir faire ce truc de j'essaye de comprendre l'autre, il faut aussi peut-être remonter dans le temps et se dire comment, d'où est-ce qu'ils viennent aussi, dans quelle société ils ont été baignés. Enfin, là, je vais pas vraiment m'attarder sur la société africaine de l'époque parce que j'en sais pas trop grand-chose. Mais de ce qu'on a appris à l'école, je sais qu'il y a eu la période des baby-boomers. Donc, c'est les enfants qui sont nés à l'après-guerre et tout ça. Et donc, c'était... un monde qui était en construction, genre la société, elle était détruite à cause de la guerre et tout ça. Et du coup, ces enfants, ils viennent justement après la guerre. Et donc, leur conception des choses est complètement différente. Du coup, par exemple, avoir de l'électricité, c'est quelque chose de dingue. Et donc, ils vont apprendre à, par exemple, éteindre la lumière. Alors que nous, peut-être, on peut avoir tendance à sortir d'une pièce et laisser la lumière allumée. Et quand tu te retrouves, par exemple, dans le monde du travail, on le voit très bien quand t'es une jeune... une jeune étudiante et que tu dois travailler avec des personnes plus âgées, il y a des choses que tu vas faire que eux, ça va les, ça va les frustrer. Ils vont se dire, ouais, mais moi, à ton époque, j'aurais jamais osé parler à mon chef comme ça. Il y avait vraiment ce respect de la hiérarchie. Genre, c'est le chef qui te dit, donc ça vient vraiment d'en haut, le chef dit quelque chose. Et tu respectes ça, alors que nous, on est dans l'ère d'Internet et le savoir, en fait, il est plutôt horizontal. Donc, tout ce qu'on apprend, en fait, on a les informations directement sous notre pouce. Et donc, parfois, quand il y a une personne plus âgée qui te parle et qui te dit un fait qui, pour lui, paraît
logique
et que ça a toujours été comme ça, ben toi, juste en deux secondes, tu peux vérifier l'information et le contredire, et ça peut frustrer la personne, et ça remet en cause son autorité face à toi. Et du coup, il y a des trucs comme ça, et parfois, je me souviens d'un temps où ça m'amusait de justement montrer que j'étais plus intelligente que ces personnes plus âgées, parce que j'ai accès à toutes ces informations, et tu te rends compte qu'en fait, on est dans une génération où c'est plus les aînés qui t'éduquent, mais les petits éduquent les aînés.
Un peu comme on utilise le téléphone.
Est-ce qu'on peut vraiment dire éduquer, c'est plus les adapter à la société, enfin, notre société, nôtre.
Ouais, c'est adapter.
Parce que moi, je pense que c'est pas parce qu'ils ont une autre perception des choses ou une autre société, ou une autre façon de voir les choses, qu'ils ne sont pas forcément éduqués.
Mais je pense que quand elle parle d'éducation, c'est vraiment plus dans une idée d'apprentissage. Vraiment, autant où on peut nous donner des choses, et nous-mêmes, enfin, et nous les apprendre, nous aussi on peut donner des choses à nos parents, ou aux personnes plus âgées, et leur apprendre.
Ouais, pour ça, il ne faut pas être orgueilleux en se disant « Ouais, moi je connais mieux parce que j'ai Internet et tout ça. » Il faut aussi s'humilier, se dire que attends, mais ces personnes-là, même s'ils viennent de l'âge de la glace, ou je sais pas comment on appelle ça, l'âge de pierre et tout ça, bah, ils savent plein de choses. Il y a des valeurs qui sont vraiment ancrées en eux, que je trouve que c'est un peu dommage que notre génération passe un peu à côté de ça, parce qu'on a trop accès aux trucs trop facilement.
De toute manière, par exemple, tu vois, quand tu as des tantines qui te donnent des conseils à propos du mariage et tout ça.
Tu lèves les yeux.
Tu te dis, oh my god, j'ai la buse. De toute manière, le mariage, maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, c'est l'homme qui pousse la poussette, ok. Ouais, tu dis ça. Mais après, quand tu rentres dans le mariage et que tu vois qu'en fait,
les tantines là, elles avaient raison.
Ouais, mais tu vois, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, mais aussi le fait de tout le temps rabâcher les oreilles avec le mariage ci, le mariage là. C'est même pas que tu repousses l'enseignement qu'on veut te donner, c'est juste on a marre, en fait, tu vois. Il y a tellement de pression, surtout quand on arrive à un âge, à l'âge du jeune adulte, 24, 25, 26 ans, tu viens de terminer tes études, alors forcément on attend que maintenant tu te maries et que le lendemain t'as un enfant et que le surlendemain t'es déjà ta première maison, tu vois. En fait, c'est vraiment, je pense, le truc de tout le temps se faire rabâcher les oreilles avec ça. T'es juste en mode tu souffles et tu deviens fermé à tout ce que on pourra dire sur le mariage, que ce soit bon ou pas, tu vois. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que quand tu viens le mariage pour du vrai, tu te dis, en fait, j'aurais bien utilisé les conseils qu'on m'a donné. Donc,
Mais vous avez une idée de pourquoi ils sont à fond sur le mariage comme ça? C'est quoi? C'est la seule chose qui est au monde, genre on est né pour se marier ou quoi? Enfin,
moi, je pense que c'est vraiment une question d'éducation. Quand t'as connu aucun autre schéma que celui que tu vis, c'est difficile de voir d'autres schémas, tu vois. Tu grandis, tu vas à l'école, t'as un diplôme, ok, tu te maries, t'as des enfants, voilà. C'est ça, en fait, c'est ça la vie, c'est le cycle de la vie, entre guillemets. Et en fait, nos parents, ils ont jamais connu, tu sais, le « Ok, j'ai 20 ans, je prends mon indépendance, je prends mon appartement », tu vois. Et ça n'existe pas, ça, tu quittes pas la maison tant que t'es pas marié, homme ou femme, tu vois. Et donc, je pense que tu donnes que ce que tu as, en fait, et tu ne peux partager que ce que tu connais. Et je pense que, ils voient pas autrement que le schéma diplôme, mariage et puis enfant, tu vois. Donc, je pense que c'est un petit peu ça. Donc
voilà pourquoi nous, notre génération à nous, comme on est quand même une génération qui est plus ouverte et on pense pas forcément directement au mariage, on peut éduquer les parents qui sont willing, qui sont ouverts à nous entendre, de dire que ouais, non, il y a plus à la vie que le mariage, tu vois. Genre, on peut vivre nos...
Est-ce que ça a vraiment fonctionné?
Parce qu'il
faut savoir qu'il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de tantines qui... C'est pas qu'elles sont dans le m'as-tu vu, mais ce que les gens pensent les affecte très facilement. Donc à partir du moment où deux tantines ou une collègue, une tantine à l'église, une tantine au travail, une tantine dans la rue, voit que ta fille, elle s'est toujours pas mariée, tu vois, ça commence, ça peut heurter, tu vois, même si elle, ça la heurte pas forcément, le fait que tu ne sois pas mariée, mais le fait que les autres soient mariés et que il y a des remarques, ça peut affecter, tu vois.
Ouais, mais ça l'affecte elle, mais moi.
Mais c'est ça.
Oui, mais... I mean...
Et moi, je pars vraiment du principe où il faut apprendre à se détacher, parce que du coup, ça fait aussi partie du thème du podcast d'aujourd'hui, mais des comportements toxiques, en fait. Ok, tantine, un tel, elle a dit à maman que ça affecte maman, je veux bien, mais je ne suis pas maître du temps, ni des circonstances, et je fais avec ce que je peux, tu vois. Si aujourd'hui, je ne suis pas mariée, ben c'est que c'est comme ça, et demain, on verra, après-demain, on verra, mais je ne vais pas commencer à moi mettre la pression, ouais, parce que tantine Eugénie est partie dire à ma mère que, tu vois. Mmh. Et je pense aussi qu'il faut commencer à changer un petit peu son fusil d'épaule et être un peu plus concentré sur nous-mêmes et sur ce que nous on ressent. Parce que souvent on va se mettre nous à mal et vivre des choses qu'on veut pas vivre pour le bien d'eux.
Moi je pense que c'est 50-50. Ouais. Parce que je vous jure qu'à un moment donné aussi je pensais comme ça que oui, c'est moi, je dois penser à moi, je dois penser à mon bonheur. Mais faire souffrir nos parents aussi des fois, enfin,
c'est pas
les faire souffrir, mais les voir sourire et les rendre heureux, ça peut te faire du bien aussi, tu vois.
Ça veut dire que quoi, tu vas accepter par exemple un mariage qui te convient pas pour les rendre heureux, pour qu'ils sourient?
Pas forcément. Bon, après, est-ce qu'on peut peut-être mettre un autre exemple, parce qu'il n'y a pas que le mariage, il y a quoi d'autre?
Mais par exemple les études aussi, pareil. Ouais, moi je te vois avocat, et puis tu vas dans des études de droit qui te plaisent pas, dans lesquelles tu t'épanouis pas, pour faire un métier que tu n'aimes pas, parce que tu veux rendre heureux tes parents.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Pff, mais là, justement, moi, je pense qu'il faut 50-50. Là, c'est trop simple. 50 Là, c'est trop simple.
Mais comment 50, tu définirais le 50-50, aussi, du coup?
Ah, je sais pas.
50, c'est beaucoup, c'est vrai. En fait, le problème, c'est que je pense que la plupart des parents, quand ils font des enfants, ils se disent qu'ils font l'enfant là pour leur bonheur à eux.
Mm. C'est un investissement.
Oui, c'est un investissement, mais...
Ça coûte combien un enfant? Ça coûte cher.
Ça coûte cher. Mais le truc, c'est quand tu mets un enfant ici
au monde,
eh ben, c'est un individu à part. Il aura ses rêves à lui, il aura ses ambitions, il aura sa manière de voir les choses. Et c'est ça que parfois, tu as des parents, ils sont tellement attachés que, ouais, vu que moi j'ai raté ou j'ai pas su faire ceci,
c'est ça. Ils commencent à faire des projections.
C'est cet enfant qui va accomplir
mon rêve, je vais être footballeur à travers
c'est quand tu fais pas, c'est la mentalité africaine, non?
Ouais, mais c'est une mentalité, tu vois, moi je veux pas qu'elle se rattache à ma vie, tu vois. Et c'est pour ça que je disais que je comprends cette histoire de, ok, je considère mes parents et je veux pas leur faire du mal, mais il faut aussi break les liens générationnels, ouais, vraiment tout ce qui peut se transmettre à la génération d'après, parce que eux, ça vient de pas, c'est pas eux qui l'ont inventé, cette histoire de pression, mon enfant, ça vient encore d'avant, c'est vraiment toute une transmission générationnelle qui va de parents à enfants, de enfants à après, des enfants qui viennent après, etc. Et en fait, au bout d'un moment, tu dois briser ce cycle là parce que qu'est-ce que toi tu veux donner à tes enfants, à toi, tu vois? Et c'est pour ça que je disais qu'il faut changer le fusil d'épaule et commencer à être un peu égoïste, pas seulement pour soi, mais pour ceux qui viennent après, en fait. Moi, je pense qu'il faut vraiment se dire, ok, moi maintenant j'ai vécu autant de choses, j'ai connu autant de choses, mais qu'est-ce que je veux donner pour ceux qui me suivent, tu vois? Donc je pense que c'est plus dans ce sens là où je disais, voilà, ok, les parents, on veut pas leur faire de... on veut pas leur faire de peine, mais ce que moi je ressens, est-ce que moi je vis, ça compte aussi. Est-ce que mon enfant, celui que je pourrais mettre au monde, ressentira, compte, ça va, ce que lui ressentira, ça va aussi compter, tu vois. Donc c'est vraiment plus dans cette idée là parce que sinon on se fait souffrir et on n'est pas nous-mêmes, en fait.
Mais vous pensez pas que le fait que les parents nous imposent certaines choses ou veulent quand même qu'on fasse certaines choses, ça fait qu'on soit quand même tous rattachés ou basé sur une chose spécifique? Parce qu'à un moment donné, si moi j'ai mon enfant et tout, j'ai pas forcément d'obligation pour lui, j'ai pas forcément de direction pour lui, je lui dis ok, fais ce que tu veux, t'as le droit de faire ce que tu veux, t'as le droit d'aimer ce que tu veux, à un moment donné il y a plus cette base, en fait.
Oui, mais c'est about inculquer les valeurs, et il y a aussi imposer un schéma de vie, quoi. Tu vois, c'est genre en mode, ok, je te donne toutes ces clés, avec cette clé tu peux devenir autant avocat que tu peux devenir boulanger, mais t'as cette valeur, par exemple le respect de la personne, tu vois. Ça se limite qu'à ça, mais pas genre je veux absolument que tu sois médecin. Si t'es pas médecin, toi et moi c'est fini, je te paye, tu peux plus te laver chez moi.
Genre, tu vois, là le principe de 50-50 il peut intervenir, c'est vraiment ok, moi je te donne un cadre dans lequel tu peux évoluer, grandir, dire et t'exprimer pleinement, mais on part du principe où voilà, tu dois apprendre à respecter les gens, à respecter les aînés, à connaître la valeur de l'argent aussi, donc ça veut dire travailler à la sueur de ton front parce que rien ne se donne comme ça. Mais c'est pas un truc de vas-y, tu fais ce que tu veux, moi je t'ai juste mis au monde, l'espace il est à toi, tu vois. C'est vraiment.
Mais est-ce que c'est vraiment fréquent ça? Parce que moi personnellement, je connais personne à qui c'est vraiment arrivé. Je sais pas si vous, ça vous est arrivé.
Arrivé d'avoir des parents qui te disent fais ce que tu veux.
Non, qui t'oblige à faire une certaine chose.
Moi, c'est arrivé, c'est pas une obligation, mais c'est vraiment le principe des études. On en parlait un petit peu avec Tréphène avant, mais moi. Pour moi, c'était médecine et pas autre chose. Et en fait, j'avais l'impression que ma mère, surtout peut-être pas forcément mon père, portait plus ce rêve-là que moi. C'est vrai que j'en parlais souvent quand j'étais petite, mais en grandissant, ça s'est plus détaché. Et quand le moment de venir, de poser un choix d'études est arrivé, on m'a vraiment dit, ouais, non, mais fais médecine. Ouais, mais non, laisse ça là-bas. Médecine, c'est bien, ça. Moi, je te vois médecin, etc. Et puis donc, je suis partie en biomédical parce que j'avais raté l'examen d'entrée. Et quand j'ai dit à ma mère que je voulais changer de filière, elle m'a dit non, tu dois être médecin. Moi, je vois ça pour toi. C'est vraiment le truc. Et je ne l'en veux pas parce que, au final, peut-être que j'en avais besoin de me dire ok, elle croit en moi, elle croit en ce rêve aussi. Mais ça m'a plus retardée dans ce que je devais vraiment faire qu'autre chose, tu vois. Et je pense souvent, il y a de ça, c'est que nos parents nous voient tellement à un endroit qu'ils en oublient en fait ce qui nous fait vraiment vibrer, ce dont on a vraiment besoin, tu vois. Et donc,
est-ce qu'ils savent aussi ce qui vous fait vraiment
est-ce qu'il
vibrer
faudrait, est-ce qu'il faudrait pas mettre un cadre avec ses parents? Pas un cadre, mais genre pouvoir se dire que oui, on peut se mettre à table et parler de ce que j'ai envie, mes aspirations, mes rêves. Enfin, comment est-ce que tu pourrais dire à des parents qui sont très bernés sur une chose que non, en fait, ce que vous me dites, c'est parce que... Ça, j'ai envie compliqué de faire. Ça, parce qu'il ne pas paraître impoli, même si tu vas paraître impoli, parce que dans leur tête, c'est comme ça. Tu peux pas...
Papa, j'aime pas.
Honnêtement, papa, je sais pas s'il y a vraiment un code. Enfin,
non, mais si tu dis j'aime pas, il va dire quoi?
Il peut te confronter. Ouais, mais au moins, tu l'auras dit. Moi, je pense que le plus important, je pense qu'il n'y a vraiment pas de démarche à suivre ou de façon de faire qui soit plus appropriée qu'une autre. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de verbaliser la chose. Après, que le parent l'entende ou ne l'entende pas, au moins, tu l'auras dit. Tu vois, ouais, okay. Je pense que c'est vraiment...
Le courage de savoir... comment dire verbaliser.
Merci la régie. Merci.
Dire ce qui est ton opinion à des parents
qui sont très. Mais,
en fait, je pense vraiment qu'on doit. Bah, t'as dit, ouais, t'as donné une bonne. Déjà, un bon point de départ, c'est le courage. Parce que le problème de. Si tu te sors pas de ta zone de confort et que tu ne parles pas, c'est que tu risques de vivre avec des regrets. Tu vois, et quand le moment sera trop tard, tu vas commencer à dire ouais, mais j'aurais peut-être dû dire ça à ce moment-là. Mieux vaut dire les choses, même si c'est difficile, hein, même si ça te demande vraiment de sortir de toi, etc. Dis-le parce que t'en as besoin. Et comme je l'ai dit, que ton parent l'entende, ne l'entende pas, au moins tu l'auras dit. Tu pourras pas partir sur une base de regret en mode ouais, mais ça, j'ai jamais dit à mes parents, par exemple, que j'aimais pas le foot, que moi, c'est mon sport préféré, c'est le basket, mais j'ai fait 20 ans à jouer du foot, tu vois, par exemple. Donc, ouais.
Parce qu'en soi, même si quand tu le dis, même si tu penses que les parents n'écoutent pas, la nuit...
Ça rentre quand même, ça rentre.
Ah oui, si. Et le lendemain, parfois, tu vois aussi...
Ça travaille.
Vous savez, c'est quoi la technique? Il faut avoir une tantine qui est pote avec la maman de notre côté. Je vous promets que ça fonctionne. Ouais. Parce qu'il y a des mamans, ce que les gens autour disent, ça les influence. Donc, s'il y a une maman qui dit... Ah, tika moana, hein, moi, mon enfant, si je l'ai laissé, je vois maintenant qu'il s'épanouit, ce qu'il fait fonctionne vraiment. Ça peut maintenant ouvrir une porte dans les pensées de maman qui va faire que elle va te laisser une chance. Et puis, si elle voit que tu t'épanouis vraiment, que tu arrives à prouver que tu es fait pour ça, elle te laisse.
Ouais, il faudrait que quelqu'un ouvre un service de tantine à louer.
Location.
Pourquoi pas?
Ah, c'est vrai.
Pas prête.
Tantine à louer. Louez-les.
Mais donc, ouais, ça demande beaucoup de courage, sortir de sa zone de confort. Et aussi, ça forge ton caractère, quoi. Ça forge la personne que tu deviens. Parce que dans le monde adulte et tout ça, tu dois apprendre à avoir. À défendre tes idées, pas avoir peur, même si tout le monde est contre toi. Bon, dire ce que tu as en tête, tu vois.
Et le faire avec tes parents, c'est déjà un bon départ.
Oui, voilà, c'est
une préparation,
un exercice, quoi. Un exercice que tu peux faire, un exercice, quoi, pour le monde du travail. Surtout nous, notre génération. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est tous des étudiants ici. Hein.
Ouais.
Ouais, mmh. Voilà. Bah, on a déjà fait des jobs étudiants et tout. On a vu... Est-ce que vous avez déjà remarqué que les gens de notre génération, ils ont plus la tendance de pas rester longtemps dans un
monde du travail.
Tandis que la génération précédente, ils peuvent faire des 30 ans
ouais, grave.
Dans une société.
C'est dû à quoi ?
C'est culturel.
Mais je pense qu'on a plus peur du changement, déjà. Mmh. Parce que je pense qu'une personne qui a fait autant de temps dans un poste, 30 années, c'est vraiment... Il y a beaucoup de peur, j'ai l'impression, qui intervient dans nos mécanismes. Dans le sens, ouais, mais si je quitte mon boulot ici maintenant, est-ce que je vais en retrouver un autre ? Si on me renvoie, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, tu es tellement dans ta peur, tu dis, ok, je reste dans ma zone de sécurité. Mmh. Et voilà. Et je pense que nous, notre génération, on est tellement des aventuriers. C'est-à-dire que là, si on veut tout claquer, on arrête les études, on va aux Bahamas, on va aller, en fait. Parce qu'il n'y a pas cette peur de l'inconnu et de l'aventure.
Et je pense aussi c'est parce qu'on est souvent exposé, enfin avec encore une fois Internet et tout ça, on est exposé à l'idée qu'il y a plusieurs options qui sont en face de nous. Et je l'entends aussi au niveau des relations, on le voit avec les sites de rencontres et tout ça. Mm-hmm. Tu te dis ok, bah, si ça marche pas avec celui-ci, bah, j'en ai 10 000 autres qui vont, de toute façon mes DM sont remplis et tout ça. Mais moi je sais pas si c'est forcément une bonne chose de se dire qu'il y a d'autres options. Tu vois, c'est comme si tu valorisais pas ce que tu avais.
Et tu vas pas te dire dans ce que tu fais.
Quand, oui, tu te mets dans le truc et puis tu dis, bon, ben, pff, il est pas assez drôle, il y aura plus drôle et tout ça.
Je sais pas, j'irais oui et non, parce que justement, le fait de se dire qu'il y a d'autres possibilités, c'est rassurant, tu vois. C'est vraiment parce que, sinon je peux prendre l'exemple extrême, mais dans l'autre sens, imaginons, parce qu'on parlait du site de rencontre et de relations, imagine je suis avec un gars, et je reste avec ce gars, mais mon cœur il n'y est plus, mais je me dis je reste avec lui parce que je me dis ouais, c'est le seul que je connais, ou c'est le seul que j'ai connu, peut-être que quelqu'un d'autre va pas m'aimer, tu vois. En fait c'est vraiment, c'est pas de se dire que on n'apprécie pas le moment qui est là, mais c'est qu'on se dit qu'en fait je peux apprécier d'autres choses aussi, et c'est ok de ne plus apprécier là où je suis maintenant, tu vois. En tout cas moi je le vois vraiment comme ça.
Ouais, mais parce que vous êtes pas encore engagé, mais au moment où tu devras te dire, ok, maintenant j'ai envie de comment on dit ça, settle down, comment on dit ça, ouais, j'ai envie de me marier, quoi.
Ouais.
Comment est-ce que tu peux dire, ok, j'arrête de penser au truc à option.
Mais déjà, je pense qu'à partir du moment où mon cœur est engagé, j'ai même plus cette idée d'option, tu vois. Mais c'est pas parce que j'ai plus cette idée d'option en tête qu'au moment où je me dis qu'en fait, cette relation ne va plus, il faut qu'on trouve une solution, que je vais pas me dire ok là c'est bon je peux m'arrêter, tu vois, je sais pas comment expliquer, enfin je sais même pas ce que je viens de dire là, c'était correct ce que je réfléchis en même temps, mais bon je reprends mon idée. Donc en gros je pars du principe où quand t'es, en tout cas pour moi, parce que peut-être qu'on pense pas tous de la même manière, mais quand t'es engagé dans quelque chose, t'es engagé et tout ton cœur est dedans, tu vois. T'as pas commencé à réfléchir à Albert que t'as laissé en 6e primaire ou à Jean-François que t'as laissé en 2e secondaire, tu vois. Tu profites de ta relation avec la personne sur le moment même. Mais maintenant, si ta relation, pour X ou Y raison, commence à battre de l'aile et que tu te dois de t'asseoir avec la personne et de dire, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce que, tu vois, c'est ok de se dire, ok, c'est la fin de quelque chose. Okay. Et c'est pas parce que c'est la fin de quelque chose ici maintenant que je vais jamais retrouver autre chose, tu vois.
Ouais.
Ouais. C'est comme avec vous, il y a quelques jours, je vous ai proposé l'abonnement de Viking, non ? Je vous ai dit, c'est moins cher, vous voulez pas. Alors que c'est moins cher, vous êtes trop à l'aise dans vos bêtises. Mais c'est ça, non ? C'est un exemple. Mais oui.
Mais est-ce que moins cher veut dire plus avantageux ?
Oh, moins cher, plus de 4G.
Placement de produit.
Non, mais je pense que c'est vrai qu'on peut avoir peur du changement. Même quand c'est peut-être même bénéfique, on est à l'aise, donc hein, le changement me fait peur.
Ouais.
Le changement, c'est important.
Ouais, c'est pas cool.
Ça fait grandir.
Mm-hmm.
Et en fait, j'ai l'impression que là, maintenant, si par exemple, t'es engagé dans un travail et que t'aimes plus et tu te dis que tu veux changer... Et tu fais ça plusieurs avec d'autres choses aussi, genre t'as pas peur d'aller quelque part d'autre, et bien ça montre que ça peut t'aider aussi dans tes relations, que ce soit amicales ou amoureuses. Hein. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là ? Je vais expliquer. Donc, si déjà dans le domaine de travail, le domaine d'un hobby, le domaine de, je sais pas, l'école et tout ça, tu es dans quelque chose et tu te dis ok non, ici j'aime plus trop, je vais quitter, je vais aller quelque part d'autre. Ça peut être la même chose dans une relation. Tu peux être engagé, comme Céline a dit, avec une personne, et tu commences à voir que ça va pas. Au lieu d'aller plus loin juste dire, ok, non, ça c'est le... Si je vais quelque part d'autre, il y aura pas quelqu'un qui pourra m'aider. Bon, merci. Je pense que ça, c'était pour nous. Donc, je pense qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui pourra m'aimer. Donc, je vais juste marier ce garçon, même si j'ai plus de sentiments pour lui.
Mais ça, c'est quoi, triste.
Juste hein. Le fait que tu, déjà dans des autres domaines, tu n'as pas peur de quitter et aller quelque part d'autre. Et bien aussi dans tes relations, dans tes relations amoureuses ou amicales, tu n'auras pas peur de quitter et aller quelque part d'autre. Aller quelque part d'autre pour te dire que y a quelque chose de mieux qui m'attend de ce côté-là, parce que je dirais que les générations précédentes, donc les générations de nos parents, la plupart, j'en sais rien, tu peux voir que le mari avec qui ils sont, c'est, ils ont settled down,
c'est pas leur meilleure option, quoi.
Yeah, c'est pas la meilleure option. Et tu peux voir que ouais, il y a encore cette mentalité de ouais, si je quittais cet homme là j'aurais pas trouvé quelqu'un d'autre, donc ils acceptent des personnes qui les traitent mal, quoi.
Moins cher.
Oui, voilà. Donc ça peut être un exercice, donc c'est une bonne chose.
But I feel like when it comes to relationships, it's different. Like,
je suis d'accord.
En fait, les relations, c'est tellement complexe. En fait, c'est vraiment même pas que tu peux pas trouver quelqu'un d'autre qui puisse t'aimer, c'est vraiment le fait de, je dois tout recommencer, être vulnérable à nouveau, ouvrir mon cœur à nouveau, passer par la phase où t'as des petits papillons dans le ventre, où j'allais en date, etc. C'est, je pense que c'est vraiment tout ce truc là où tu dis flemme.
Mais avec même avec les amis, c'est pareil.
Ouais.
Tu vois, il y a des amis, vous êtes déjà arrivé à un certain stade, recommencer encore,
à zéro.
Te dire encore comment je m'appelle, ce que j'aime manger.
Non, parce que ouais, changer de boulot, ouais, c'est pas compliqué. Ouais. Tu peux aller d'un boulot à un autre, recommencer, c'est pas si difficile que ça. Mais les relations, c'est tellement plus profond qu'un boulot. Quand tu pars au boulot, tu peux être superficiel, tu peux être hypocrite. Coucou, mais t'es pas en train t'es pas obligé d'être ami avec les personnes avec qui tu travailles, tu vois. Mais quand il s'agit de relations,
vous avez des exemples.
Les relations, c'est it's a real thing, like you have to be vulnerable, tu vois. Tu dois l'être, tu peux pas faire autrement, tu peux pas fuir indéfiniment la confrontation dans une relation, tu vois. Ouais. Et donc je pense que c'est ça qui est compliqué dans le changement au niveau des relations, parce que sinon, ouais, alors là, c'est facile, tu vois.
Mais ce qu'elle dit, elle a pas vraiment tort.
Elle a pas tort, je pense que c'est quelque chose qui peut aider à ne plus avoir peur du changement, mais je pense pas que ça rend les choses plus faciles pour autant.
Ok.
Ouais. Et que du coup, on ne peut pas comparer les deux domaines, puisque l'un, c'est tu peux être superficiel, et l'autre, il faut être vulnérable.
Ouais, il faut être trop fort.
Mais c'est ton cœur qui est exposé, et que c'est deux cœurs de personnes. Parfois, il faut se dire aussi que c'est vraiment le cœur d'une personne, et le cœur et ton cœur à toi qui sont en jeu, et que parfois, pour réparer ça, une fois que c'est brisé, ça prend pas quelques mois, mais des années. Quoi.
Mm-hmm. Ouais, donc, tout à fait.
Ou alors, c'est le prochain partenaire qui va subir le brisement du cœur.
Et toi, tu vas lui briser le cœur,
c'est là que tu deviens toxique.
Voilà. Et tu deviens toxique, alors.
Mais est-ce qu'on devient vraiment toxique? Moi, j'ai l'impression qu'on a facile à catégoriser les personnes comme des personnes toxiques, alors que parfois, c'est juste leur comportement qui sont toxiques. Après, peut-être que c'est vrai, ça existe des personnes qui sont vraiment toxiques avec tout le monde.
C'est
mais
quoi
je pense
la différence
pas que...
entre une personne toxique et une personne qui a un comportement toxique?
Bon, déjà, je sais même pas si je pourrais définir une personne qui est toxique. Moi, à mon avis, je pense qu'une personne qui est toxique, elle est toxique avec peu importe la personne qui est là en face d'elle. Tu vois? C'est vraiment, c'est dans son caractère, c'est dans, limite dans son identité. Mais un comportement qui est toxique, je pense que c'est vraiment, ça va dépendre vraiment de la situation. Imaginons, je suis avec, on reste dans le thème des relations, je suis avec un gars et je sais pas, il fait quelque chose qui fait que j'ai plus confiance en lui et je commence à devenir parano. Ouais, t'es avec qui, tu fais quoi maintenant? Et puis j'envoie des messages tout le temps, etc. Là, il commence à faire ressortir le pire en moi et je commence à avoir un comportement qui est toxique parce que je vais venir l'étouffer, l'assaillir de questions à chaque fois, le mettre mal à l'aise, j'ai pas forcément confiance, tu vois. Et donc, je pense que c'est pas parce que je suis toxique moi, je peux vraiment être quelqu'un de... c'est-à-dire de correct, mais voilà, je peux être quelqu'un de bien dans la relation de manière générale, mais parce qu'il y a eu un moment, il s'est passé ça, il y a mon caractère toxique qui a pu ressortir, tu vois. Mais ça n'est pas forcément de moi quelqu'un de... Enfin, ça ne fait pas forcément de moi quelqu'un toxique. Ouais. Je peux m'être avec quelqu'un d'autre et tout se passe bien, tu vois. Mmh. Je pense que des fois, tu rentres dans des relations, que ce soit amicales ou amoureuses, où il y a des mauvaises associations. Et ces mauvaises associations peuvent faire ressortir la toxicité d'une personne, mais ça rend pas la personne toxique dans son ensemble, mais à des comportements qui sont toxiques.
Mmh. Mais là, on parle des relations, donc c'est quelqu'un que tu rencontres, qui est un peu à l'extérieur. Et maintenant, si c'est dans ta propre maison, c'est tes sœurs, tes frères, tes parents, comment est-ce que tu vis avec une personne qui est toxique ou qui se comporte toxiquement? Est-ce que c'est parce que tout le temps, toute l'année, ils sont de mauvaise humeur et donc ça rend le truc toxique, ou c'est vraiment la personne qui est...
Moi, je pars vraiment du principe où c'est vraiment le comportement. Parce que si, par exemple, tu es dans une maison, il y a, voilà, disons, toi et un frère, puis tes parents, et que, par exemple, ton père, il se comporte avec toi d'une certaine façon et pas avec ton frère, il n'est pas toxique. C'est son comportement envers toi qu'il est. Ouais. Imaginons, quel exemple je pourrais donner? Un truc qui arrive souvent, c'est juger le poids d'une personne, son apparence physique, tu vois. Ouais, mais toi, toujours tu manges. Ouais, mais toi, t'es comme ceci. Ouais, mais tu fais du sport, etc. En fait, c'est vraiment le comportement de la personne envers toi qui est toxique, tu vois. Ouais. Et je pense que dans ce genre de situation, il faut fuir la toxicité.
Mais I mean, tu habites là.
Moi,
c'est là que le mariage intervient.
C'est ça le problème. Tu crois que c'est la bouée de secours et puis tu te retrouves encore.
Si par exemple, tu as déjà verbalisé que, ok, comment tu me parles, ça me dérange, et que la personne n'entend pas, bah, tu te lèves de la table. Si elle veut plus, si elle continue à persister, tu vois. En tout cas, moi, c'est moi. En tout cas, je sais pas si je suis un exemple, mais je me protège beaucoup en tant que personne. Et je pars du principe où tout est réparable. Tout est réparable. Un comportement qui est toxique ne va pas forcément rester toxique sur la durée. Mais alors, à ce moment-là, je vais te dire, ok, en fait, quand tu me dis ça, moi, ça m'est mal à l'aise. Quand tu me parles de mes cheveux, ça m'est mal à l'aise. Quand tu me parles de mon teint, ça m'est mal à l'aise. Quand tu parles de mon corps, ça m'est mal à l'aise. Est-ce qu'on peut arrêter? La personne peut l'entendre ou ne peut pas l'entendre. Et si elle ne l'entend pas, je lui dis, bah, écoute, que je vois que ça arrive à nouveau, je me dis, bah, je vais quitter la table parce que ça, je t'ai déjà dit que ça me plaisait pas, alors je m'en vais. Et quand tu seras prêt à avoir une conversation qui est ok, sans que tu me parles des choses qui m'affectent moi, il n'y a pas de souci, moi je serai là, mais en attendant, I gotta leave plutôt.
Ça, les parents ne comprennent pas, ils peuvent prendre ça comme de l'impolitesse.
Mais tant pis, alors on est impoli.
Oui, on est impoli.
Alors on est impoli, il n'y a pas de souci.
Les titres, pardon.
Parce que bon.
Pour se protéger, ouais.
Sinon, on se fait rouler dessus, on se fait marcher dessus, et puis après, c'est nous, on doit guérir de nos traumas.
Mais c'est ça,
tu vois.
Tu dors pas la nuit, tu fais des cauchemars et la personne, elle est là en train de ronfler.
Elle se rend pas compte que ce qu'elle t'a dit, la remarque qu'elle a fait, la comparaison qu'elle a fait entre toi et ta sœur, ben, ça t'a marqué à ce point-là, et toi, tu gardes ça dans
et
son
ça
cœur.
Reste,
ça reste, ça reste, ça reste.
Et
ça
après, si tu solutionnes pas ça, tu vas faire des enfants et puis tu vas passer aussi encore ces insecurities et ça continue, tu vois.
Et c'est un cercle vicieux.
Ouais. Donc, you gotta speak up.
Ouais, pour briser le truc générationnel.
Ouais, non, mais vraiment ça, vraiment ça. En fait, on se rend pas compte, mais on a le droit de couper les ponts avec les gens. Famille ou pas famille, parent ou pas parent, t'as le droit de couper les points.
Il faut avoir un âge. Je sais pas s'il faut avoir un âge. Parce que genre ceux qui ont moins de 18 ans et qui sont sous la responsabilité des parents et qui te mettent la pression et disent.
Tellement
oh,
d'exemples qui me viennent en tête.
Ouais.
Vraiment, j'ai beaucoup d'exemples qui me viennent en tête. Mais en fait, c'est important de le faire. Parce que si tu le fais pas, parce que regarde, par exemple, après, oui. Quand t'es mineur et que t'es sous la tutelle de tes parents, c'est un cas qui est différent, tu vois. Mais quand je parle de couper les ponts, je parle vraiment de couper les ponts. C'est pas un truc de « ouais, je te parle plus ». C'est vraiment si ta tante, elle te fait comme ça, t'as le droit de dire « ok, moi cette tante, j'ai plus envie d'être avec elle ». Et si, par exemple, sa présence te met tellement mal à l'aise qu'au repas de famille, tu veux pas aller, bah tu n'y vas tout simplement pas. Et t'as le droit. Et même si on te traite d'impoli, bah ok, dis que t'es impoli, y a pas de souci. Je suis impoli.
Tu t'acceptes?
Moi,
je peux mettre
fait
sur ma carte d'identité un poli à côté de moi, mais il n'y a pas de problème.
Je commence à croiser ma tante dans les métros. Toi, tu me fuis.
Oui, je te fuis.
Je vais t'appeler.
Non, mais en fait, il faut vraiment apprendre à se protéger. On vit tellement de choses au quotidien. Et s'ajouter des traumas gratuitement comme ça.
Non, et si à la maison, t'es déjà pas bien alors que.
Non. Franchement.
Affecter tous les domaines de ta vie.
Surtout qu'eux, ils ont déjà eu leur vie, les temps.
C'est
à notre tour maintenant.
C'est ça.
Ils ont déjà eu leur vie.
Et puis t'arrives à devenir un adulte qui est endommagé. Il y a un concept en psychologie qu'on appelle vrai self et faux self. Le vrai self, c'est vraiment ta personne, enfin toi tel que tu es, tes caractéristiques et tout qui sont vraiment attachées à toi, vraiment ce que tu es. Et le faux self, c'est vraiment un comportement d'autodéfense, d'adaptation, où tu fais en sorte de pas être vu tel que tu es aux yeux des autres, pour te protéger, tu vois. Exactement, c'est vraiment un peu ce principe-là. Et il y a beaucoup qui sont dans le faux self parce qu'ils ont peur d'être vraiment eux-mêmes, à cause des remarques qu'ils peuvent avoir ou à cause des choses qu'on pourrait leur attacher, tu vois. Et donc, ça fait que quand tu arrives à l'âge adulte, quand on te demande ce que tu aimes ou qui tu es, tu n'arrives pas à te définir. Parce que tu as vécu dans une peau qui n'était pas la tienne, tu vois. Et moi, je pense qu'au bout d'un moment, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment commencer à briser ces cycles-là et commencer à se dire, OK, même si on me traite d'impoli, de têtu, il n'y a pas de souci, mais je ne veux pas que ça me coûte mon identité. Ça, je ne veux pas que ça me coûte ma paix, je ne veux pas que ça me coûte qui je suis, parce qu'un tel voit ça de moi et que moi, je ne le vois pas, tu vois. Donc ouais, au bout d'un moment, we gotta stand up for ourselves et si dire des choses, peur, tu vois. Ouais, franchement, ouais.
Ça fait peur parce qu'il n'y a personne qui est là pour te défendre, pour prendre
ton... Personne ne va te défendre.
Ouais, c'est toi-même, en fait.
C'est toi et toi,
et
vraiment.
Ça montre aussi que, en fait, dans la vie, dans cette vie qu'on vit, il y a
chacun
que toi.
Son dos.
Ouais.
Grave.
Il y aura que toi, en fait, qui aura ton dos. Tes parents, il y aura un moment, ils ne seront plus là. Non, tu vas faire quoi?
C'est ça. Et puis franchement, j'insiste encore sur ça, mais je suis trop dans une optique à qu'est-ce que moi je vais donner aux autres, à ceux qui me suivent. Enfant ou pas enfant, on a tous des petits frères, des petites sœurs, des petits cousins, des petites cousines, des gens qui nous regardent, qu'est-ce que moi je veux leur donner, tu vois. Et moi personnellement, mes cousines qui regarderont ce podcast, elles pourront le confirmer, mais moi je suis trop le poisson qui nage à contre-courant dans ma famille. Et je pense que j'ai vraiment ouvert la voie pour toutes mes cousines qui me suivent. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les choses...
Merci beaucoup. Merci.
Quand on regarde les choses, quand on s'assied, on se dit, ouais, mais à l'époque, tu te rappelles ça, mais heureusement que t'as fait ça parce que maintenant moi je fais, tu vois. Et du coup, pas bêtement par rapport au piercing, chez nous c'était vraiment un nono, tu vois. Puis un jour je suis rentrée avec un piercing à l'oreille, c'est déjà là, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Et donc voilà, en fait, c'est vraiment, c'est des choses bêtes, hein, tu vois, mais ça ouvre la voie. Franchement, ça ouvre la voie. Donc,
n'ayons pas peur d'être des Moïse. Chez nous, c'est tu fais ça. Moi, mon père, il me donnait l'exemple de jamais tu peux mettre une pomme pourrie avec les pommes vertes, des pommes qui sont mûres. Donc si toi tu es la pomme pourrie, pour pourrir les autres, tu quittes ma maison.
Ça c'est chaud quand même.
Donc là, il n'y a pas moyen d'ouvrir la porte pour les autres, non, ça, parce qu'on sait déjà que ce que tu vas faire là peut influencer les autres, donc on t'écarte.
Mais vous pensez que les parents sont sérieux quand ils disent ouais, si tu fais ça hors de...
Ah si.
Il y en a qui osent.
Mais il y en a qui c'est juste pour te tester.
Non, ils osent tous. Que personne ne vous mente. Que personne ne... Après, il y a des situations où peut-être, parce que des fois on dit oui, si tu ramènes un enfant, là je vais te mettre dehors. Là, il y a des mamans des fois qui peuvent temporiser. Mais il y a des situations vraiment où tu vas vraiment à contre-courant. On est en Belgique, ils savent très bien qu'on est en Europe, que tu vas peut-être revenir ou tu vas t'en sortir, tu vois. Parce qu'en Afrique aussi, c'est comme ça, c'est en mode, si on te met dehors, peu importe où tu vas aller, si tu vas chez tantine, si tu vas chez tonton, tu dis que maman t'a chassé, on va te frapper, on va te renvoyer chez maman, tu vois. Ce qui fait que tu vas quand même revenir. Et c'est pour ça qu'ils ont cette facilité-là de chasser, parce qu'ils se disent, tôt ou tard, elle va revenir, tu vois.
Mais ici en Europe, tu vas trouver directement un logement social, tout.
Mais la vie n'est pas facile, donc ça se trouve, tu vas tenir 3 mois, puis...
Tu reviens. Il y en a qui ont tenu, hein. Ils ont tenu. Bon, après, il faut pas faire ça. Hein. On a fait combien de minutes, là, Aurore?
Ah ouais. Bon, mot de la fin. Okay. Y a-t-il un mot de la fin?
Un mot de la fin, alors?
En tout cas, n'ayez pas peur du changement et de la délivrance. Oh. Quand tu fuis la tantine toxique, tu fuis la maman toxique. C'est la délivrance, non? C'est la liberté. Oui ou non?
C'est mieux quand tu la confrontes avec tes idées, moi, je trouve. Et que tu peux dire, bon, là, on va encore entrer dans les choses comme ça. Moi,
là, on va encore entrer dans les débats. Hein, c'est le mot de la fin. En tout cas, n'ayez pas peur du changement. Et soyez vous-même. Pensez à vous d'abord. Parce que votre vie, personne ne la vivra à votre place.
C'est vrai, hein.
Voilà.
À la fin, c'est que toi qui vas être dans le lit d'hôpital. Hein.
En train de pousser. Personne ne va pousser à...
Be selfish.
Céline? Non, je suis d'accord avec ce que Vichy dit. Je vais regarder la caméra, je te regarde dans les yeux. Ta vie compte, en fait. pas celle d'un autre, pas celle de ton père, pas celle de ta mère. Tu vas pas vivre des rêves par procuration. C'est tes rêves à toi qui comptent. Et on va pas t'enterrer avec ton diplôme. On va pas t'enterrer avec tes accomplissements. Quand on ira à ton enterrement, on va pas se rappeler de tous les masseurs que tu as eu en poche. On va se rappeler de qui tu es. Et donc, c'est important que tu puisses te révéler dans ton caractère, dans son entièreté. Si tu as envie de faire de l'art, fais de l'art. Si tu as envie de chanter, chante. Si tu as envie de te rouler par terre, roule-toi par terre. Mais sois toi-même et n'aie aucun regret en fait dans ta vie. Que ça plaise ou pas aux gens, c'est ta vie à toi qui compte.
Ouais. Des fois, il faut vous violenter, vous les gens, vous dormez trop. Oh. Arrêtez, réveillez-vous.
Elle a tout dit.
De ouf.
Franchement, c'était une super conversation. J'ai appris beaucoup de choses. Tu peux juste me répéter les deux termes
Faux self et vrai self.
Ouais. Okay. Le faux et le vrai.
Ok, et vrai self. Ok. Bah, j'ai kiffé. Dites-nous ce que vous en avez pensé. La discussion continue sur le réseau. Mais voilà, donc on vous voit pour la prochaine vidéo.
Oui, merci à nous deux. Oui.
Merci à vous. C'était un honneur d'être là.
En tout cas, dédicace à Grace et à Denise.
Au prochain épisode. Mais voilà. Franchement, c'était super.
Ciao.
Trop bien. Read the room.